OK, on est en business. Bonjour tout le monde. On est en train de regarder, pour ceux qui peut-être nous visitent, l'identité de Jésus depuis presque un an maintenant. Ce matin, on va regarder Jésus, Fils de Dieu. Voilà ce qu'on a vu à date. On a vu beaucoup de choses. On a vu les 7 déclarations de Jésus dans l'Évangile de Jean. Je suis le pain qui donne la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Toutes des choses là, vraiment remplies de vérité sur la personne de Christ. Puis, je vous encourage, moi, je quand je prie, tu sais, souvent, là, on a tendance à dire au nom de Jésus, Amen. Mais des fois, quand je prie maintenant, souvent, je dis au nom de Jésus, le pain de vie, ou au nom de Jésus, la résurrection, la vie. Ça nous rappelle qui il est. C'est tellement riche. Puis, ça amène notre cœur à adorer. À adorer, à être dans l'émerveillement. Jésus, le bon berger, est là. Quand on dit ça, ça nous ramène à Jésus, le bon berger. Fait que je vous encourage, dans vos prières, intégrer ces aspects de l'identité de Jésus. Ces titres, mais ce n'est pas juste des titres, c'est des aspects de la vérité sur sa personne. Après ça, on a poursuivi l'étude. Pas seulement dans les déclarations que Jésus a dit lui-même, je suis la lumière du monde, mais des choses qui étaient vraies sur Jésus, comme Jésus, l'ami des gens de mauvaise vie. Qu'est-ce que ça change, ça? Bien, ça change que des fois, je me sens comme pourri, je me sens comme pas à la hauteur, je me sens pas digne. Bien, Jésus, c'est mon ami, c'est l'ami des gens de mauvaise vie. Par exemple, Jésus loin de Dieu, on a vu ça. Jésus le sauveur du monde, on a vu ça. Puis dans les dernières semaines, on a passé beaucoup de temps dans Jean 1, Jésus la parole. Puis on a vu tout ça là, sur Jésus, Jésus-Christ, la parole, il est éternel, il est divin, il est le créateur, l'unique, il est vivant, il est clair, vainqueur des ténèbres. Il est vivifiant, porteur de vie. C'est des aspects extraordinaires sur la personne de Christ qu'on a vu. Et cette parole-là s'est incarnée. Il est devenu humaine, pris la forme humaine. On a vu que la parole, ça signifie transmission de la pensée. La parole, c'est la transmission de la pensée. Et on a vu différentes formes de paroles. On a une forme verbale, je vous parle ce matin, c'est la forme verbale. On a la forme écrite. Maintenant, de nos jours, on a la forme électronique de transmettre nos pensées, de communiquer. Mais Jésus, c'est la parole humaine. C'est la pensée de Dieu incarnée. Hein? On ne peut pas comprendre ça, ça nous dépasse, mais c'est pas écrit, c'est pas verbal, c'est dire, regarde Dieu là, voilà Dieu, en forme humaine, sur deux pattes, comme on dit en bon québécois. Puis, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que la dernière fois, il révèle le Père, et qu'est-ce qu'il nous révèle du Père, c'est que le Père est plein de quoi? Grâce. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est favorable. Comment on sait que Dieu est favorable à notre égard? Jésus était rempli de grâce et de vérité. Et on a vu que la grâce, ça n'escamote pas la vérité. La vraie grâce inclut la vérité. C'est une grâce, la vérité. De dire la vérité sur quelque chose, c'est une grâce. Est-ce que vous aimez ça qu'on vous mente? Non, vous voulez savoir la vérité. Donc, c'est une grâce, la vérité. Mais la vérité sans la grâce n'est pas la vérité non plus. Ça, on a vu tout ça. Et le fait que Jésus est révélateur, on a comparé la façon qu'on a, les êtres humains, d'être des archéologues amateurs Et on a tendance à fouiller dans le talus de nos expériences passées pour essayer d'interpréter nos expériences pour en tirer des conclusions sur qui est Dieu et qui nous sommes. Et on fait tout ça. Et on fait constamment ça. On fouille constamment dans la butte de nos expériences personnelles, puis on analyse, puis on interprète, puis on tire des conclusions, on essaie de faire du sens de ce qu'on a vécu. Et comme on a dit hier, par exemple, ce que Élise a vécu, l'a amené à, inévitablement, à poser beaucoup de questions sur qui est Dieu, hein, parce que c'est souffrant, là. C'est une épée dans le cœur, de faire perdre son fils. Comment comprendre ça? Comment interpréter ça? Et ça, c'est facile de déraper. Et on est un peu comme des amateurs, des jeunes adolescents jouant aux archéologues qui tomberaient sur des anciennes ruines et qui tenteraient d'analyser ça sans pour autant avoir la première notion sur l'histoire de ces ruines. Mais Jésus est venu nous révéler le Père. Si on veut savoir c'est qui le Père, c'est Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, l'a révélé. Donc, on a vu tout ça, et là, on est rendu dans le dernier verset de ce passage-là. Ce qu'on vient de citer, c'est qu'il est le Fils unique de Dieu. Et là, on va explorer ce matin cet aspect-là de la personne de Jésus. Hein, c'est comme si, pour la plupart de nous, en tout cas, Jésus, le Fils de Dieu, c'est tellement ancré dans notre tête qu'on ne s'arrête même pas à dire c'est quoi que ça veut dire, Fils de Dieu. Mais pourtant, ça a un sens. Fils de Dieu a un sens. Et vous allez peut-être découvrir quelque chose de nouveau dans ce qu'on va voir ce matin. Ce qu'on va voir ce matin, ça se trouve dans le livre des Hébreux. Il y a un passage qui est très, disons, au début en tout cas, très parallèle. Fait que si vous avez votre Bible, je vous invite à tourner dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, puis on va lire tout le chapitre, puis même jusqu'au verset 5 du chapitre 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Voyez-vous le parallèle avec Jean 1? Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux élevés, les lieux très hauts. Très semblable à Jean 1. Jésus révèle le Père. Hein? C'est ça qu'on voit ici. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un Père, il sera pour moi un Fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Et encore, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi, tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, pardon, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas, les anges, tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et la réponse est oui, évidemment. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, le salut annoncé d'abord par le Seigneur dont il est question? Nous, qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Et on va s'arrêter là pour ce matin. Prions. Éternel Dieu, nous sommes tellement reconnaissants, nous nous réjouissons d'avoir entre nos mains ta parole, ta révélation, Seigneur. Et merci, merci d'avoir envoyé Jésus pour nous révéler le Père. Seigneur Jésus, tu es le Fils unique qui nous a révélé le Père. Et ce matin, on te demande encore de nous révéler le Père. Saint-Esprit, viens souffler sur nous, conduis-nous dans la vérité et révèle-nous la pensée intime du Père. Pour la gloire de Jésus, transforme nos cœurs, transforme nos vies, Seigneur. Viens nous saisir d'une image de ta gloire. Ce matin, au nom de Jésus, le Fils éternel de Dieu. Amen. Donc, dernièrement, j'ai pris l'habitude de vous donner le punch du message au début, pour que vous savez déjà tout de suite de quoi on va parler en une phrase, OK? Puis, à tous ceux qui apportent le message, c'est une bonne pratique en passant. Essayez de résumer votre message en une phrase. Alors, la phrase sommaire, elle est là. Jésus est le Fils, la révélation ultime de Dieu et l'héritier du trône qui est digne de toute notre adoration et obéissance. C'est le message en condensé ce matin. Fait que c'est bon, on peut aller dîner. Jésus est le Fils, et le Fils, c'est la révélation ultime de Dieu le Père, et aussi, il est le Fils dans le sens qu'il est l'héritier du trône, qui est digne de toute notre adoration et obéissance. Voici le premier point. Dieu a parlé à l'humanité de plusieurs façons, mais la révélation ultime, la plus complète et finale de qui est Dieu, c'est son Fils. Ce point est capital, puisqu'il y a des gens de tous les âges et encore aujourd'hui qui prétendent que Dieu a parlé à travers un ange. Par exemple, avez-vous déjà entendu parler de l'ange Moroni? L'ange Moroni, c'est lui qui a supposément donné par révélation directe à Joseph Smith, le fondateur de la religion des Mormons, tout ce qu'il a écrit dans le livre des Mormons. Fait que là, ça, c'est dans les années 1915-16, dans ces coins-là, là, au début des années 1900, là. OK? Fait que eux, ils croient que Dieu a parlé à travers l'ange Moroni, puis qui a donné une nouvelle, comme une extension à la Bible, là, une nouvelle révélation à travers un ange. OK? Ça veut dire quoi, ça, chers amis? Ça veut dire que la révélation à travers Jésus-Christ était incomplète. C'est ça que ça veut dire. Mais ici, la Bible, la parole de Dieu nous déclare que Jésus-Christ est la révélation ultime de Dieu. Il n'y en a plus autre après. Et c'est clair parce qu'il dit, « Autrefois, Dieu nous a parlé de plusieurs manières. » Voyez-vous là? Comment Dieu nous a parlé? On a vu ça dans Jean 1, il nous a parlé à travers la création. Il parle encore aujourd'hui à travers la création. Il nous a parlé ici à travers les prophètes, OK? Mais dans ses derniers jours, il nous a parlé par son Fils. Son Fils. Ce n'est pas un ange, et c'est ça qu'on va voir là. Ce n'est pas un ange, c'est le Fils. Et on va voir, l'auteur, moi je crois que c'est vraiment Paul, là, il va vraiment clairement faire la distinction entre le Fils et les anges. Là. Il n'y a aucun commun rapport entre le Fils et un ange quelconque. Là. Moi, mon frère, il demeure à Washington, D.C. Puis quand les enfants étaient jeunes, on y allait quand même assez souvent, presque à tous les étés. On descendait la 95, là. Puis quand tu arrives à peu près à 5 km du périmètre de la ville de Washington, il y a une autoroute qui fait le tour, là, le Beltway qui appelle. Mais quand tu arrives, là, tu descends, puis à un moment donné, là, tu vois, wow, une grosse structure blanche avec comme un clocher, là. C'est magnifique, c'est éclatant, c'est blanc. C'est quoi cette affaire-là? C'est le temple des Mormons. C'est gigantesque. C'est énorme. Et en haut du clocher, c'est quoi? C'est pas une croix. Savez-vous c'est quoi? C'est l'ange Moroni. C'est l'ange Moroni qui est là. Alors, il n'y a aucune espèce de rapport entre la religion mormone et le vrai christianisme. Aucun. Je suis désolé. J'ai déjà rencontré des chrétiens. « Ah, on devrait se rapprocher des mormons, tout ça. Ils croient beaucoup de choses comme nous. » Oubliez ça, là. Oubliez ça, là. Parce que c'est en directe opposition à ce que la parole de Dieu nous déclare ici, que le Fils, c'est la révélation ultime de Dieu. Regardez ce qu'il dit ici. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire, le rayonnement de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun ange qui peut prétendre ça. Jésus est le rayonnement de la gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est l'éclat de sa majesté. Jésus est l'incarnation de la gloire de Dieu. OK? On se comprend? Puis, il est en plus l'empreinte de sa personne. L'empreinte, ici, le mot grec, et c'est le mot caractère en grec. Et le mot caractère est défini comme étant, je cite, la caractéristique physique ou psychologique innée d'une personne qui ne peut être changée ni par l'éducation ni par le développement d'une personne. OK? C'est ce qu'elle est dans sa personne. Oui, Robert?
Dans la sommaire, l'expression parfaite de sa personne.
Oui, exactement. Merci beaucoup. L'expression parfaite de sa personne.
En anglais, c'est exact.
L'expression exacte. Merci beaucoup, c'est super. Est-ce qu'un ange peut prétendre ça? Non. Ou encore, vous avez la religion islam qui prétend que Mohammed est venu après Jésus-Christ. C'est plusieurs années, là, après, c'est des siècles après Jésus-Christ. Je ne me rappelle plus quelle date, mais c'est des siècles après Jésus-Christ et qu'il a révélé encore plus de Dieu. Ou la foi Baha'i enseigne que la religion est révélée de façon progressive à travers différentes manifestations de Dieu. Bouddha, Jésus, Mohammed, et après ça, Baha'u'llah. Baha'u'llah, c'était un prophète iranien, perse. C'est une révélation progressive de Dieu dont Jésus en fait partie, là. Donc, Jésus serait dans la lignée des prophètes qui révèlent la personne de Dieu de façon progressive. Donc, Jésus était plus que Moïse, mais pas autant que Mohammed, puis Mohammed pas autant que Baha'u'llah. Écoutez, là, ici c'est clair. Dieu a autrefois parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par son Fils. Par son Fils. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un ange. C'est son Fils. Il n'y a aucun commun rapport. Il est l'expression parfaite de son être. Le texte nous dit clairement que Jésus n'est pas qu'un prophète dans une longue lignée de prophètes, mais qu'il est fondamentalement différent de tous les prophètes de tous les temps du fait qu'il est le Fils de Dieu, le rayonnement de sa gloire, l'expression parfaite de son être. Jésus n'est pas une manifestation de Dieu, il est la manifestation de Dieu. Puisqu'il est Dieu, c'est ça qu'il dit ici. Il a établi héritier de toutes choses par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il a fait la purification des péchés. Il n'y a aucun ange qui peut faire ça. Il n'y a aucun prophète qui a fait ça. Et il s'est assis à la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus a clairement manifesté qui était Dieu lors de sa venue terrestre par le fait qu'il exerçait l'autorité sur la nature, OK, sur les démons, sur le monde spirituel, hein, et sur la mort. Il a manifesté qui il était par son œuvre majestueuse à la croix et par sa résurrection, sa victoire sur la mort. Donc, Jésus est la révélation la plus complète et finale de Dieu. C'est son Fils. Tu sais, des fois, on voit des enfants, puis on dit, « Ah, mon ami, ces deux gouttes, tu sais, ça ressemble comme son père, là, ça n'a pas de bon sens. » Pourquoi? Parce qu'il a la même génétique. Bien, Jésus, c'est ça. Jésus, c'est plus que ça même, parce que c'est Dieu même. Tu ne peux pas avoir plus que Jésus en termes de révélation de qui est Dieu. Impossible. Deuxièmement, son Fils est le Fils parce qu'il est nommé successeur ou héritier du trône. Et ça, c'est un point qu'on va déballer ensemble. Vous allez peut-être faire le saut. Verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom ou d'un titre plus excellent que le leur. Et c'est quoi ce nom-là? Bien, c'est ça. Il dit au verset 5, « Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? » Fait que c'est quoi le titre qui est supérieur aux anges? C'est le titre « fils ». Ou dans la version sumère, « Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, » dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparable, incomparablement supérieur au leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci, « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. » OK, là, on fait le saut parce que on dit, t'as peur là, « Aujourd'hui, tu es mon fils, tu es devenu mon fils aujourd'hui. » Ça veut dire qu'il n'était pas avant? Ça veut dire que le Fils de Dieu n'est pas éternel. Les témoins de Jéhovah saisissent ça, là. Les témoins de Jéhovah, ils vont dire, « Ah, voyez-vous, là, Jésus, ce n'est pas Dieu, parce qu'il dit, il a engendré, là. Il a créé, là. Jésus, c'est un être créé. » Non, ce n'est pas ça le sens de ce passage-là, OK? Le sens de ce passage-là, d'abord, au verset 5, quand il dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », ça fait référence au psaume 2, verset 7, OK? Et dans le psaume, au psaume 2, il est question d'une déclaration royale, d'une coronation. C'est une formulation de succession royale. Si vous voulez regarder avec moi dans psaume 2, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, disent-ils, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. » Voyez-vous? Les peuples, les nations se soulèvent contre Dieu et Dieu dit, « Moi, j'ai fait mon choix. J'ai oint mon roi sur Sion, la montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel me dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » En réalité, ça devrait se lire comme ceci. Aujourd'hui, je te fais fils, mon successeur sur mon trône. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas qu'il n'était pas son fils avant, mais c'est qu'il l'a oint, il l'a choisi comme étant le fils qui allait le succéder sur son trône. Son fils dans la lignée royale, vous comprenez? Un roi pouvait avoir plusieurs fils. Il ne pouvait pas tous devenir roi, là. Il fallait qu'à un moment donné, le roi désigne c'était qui allait être son successeur sur le trône, c'était qui allait être son fils sur le trône. Vous comprenez? Fait que c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, je t'ai appelé mon fils. Le semeur le rend bien ici. Il dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant ou mon héritier. Il s'agit d'une formule d'intronisation du roi, c'est-à-dire le successeur sur le roi. Jésus est le fils non seulement parce qu'il est de toute éternité dans l'intimité avec le Père, en relation avec le Père, mais en plus, Dieu l'a désigné comme son fils successeur sur le trône, héritier du trône de l'univers. Vous me suivez? C'est comme David. David avait plusieurs fils et à un moment donné, il a choisi, il a désigné Salomon de son vivant. Et il a mis lui, Salomon, sur son trône comme son fils qui allait le succéder. Fait que si on regarde dans les annales des rois de Juda, on lit David, Salomon, son fils. Et après ça, Réhoboam, son fils. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'autres fils, mais le fils qu'il a choisi pour le succéder, c'est lui. C'est dans ce sens-là. Bien, Salomon, il n'était même pas le premier-né. Il y avait plusieurs avant lui. Adonija, Absalom, il y en avait trois ou quatre avant lui. Mais Dieu a déclaré Jésus le fils héritier. Encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ici, ça fait référence à la promesse de Dieu envers David d'être le Dieu de son fils qui allait le succéder. Mais là, l'auteur, il prend puis il l'applique à Jésus-Christ. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Que tous les anges l'adorent. Le fait que Dieu déclare que Jésus sera son fils sur le trône, ça a rapport avec son œuvre sur la croix. On le voit au verset 3, à la fin. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus est venu, il a fait l'œuvre qu'il avait à faire, il est monté à la croix, il a accompli la rédemption des péchés, les morts, ressuscité, et maintenant, il est assis sur le trône. C'est à partir du moment de sa résurrection que la déclaration de Dieu prend effet. À partir de sa résurrection, Jésus devient en réalité ce que Dieu avait déclaré de lui depuis l'éternité. C'est là que Jésus maintenant est assis sur le trône. Et c'est dans ce sens-là qu'il le déclare son fils, le fils successeur. Donc, le mot « fils » veut dire qu'il est l'héritier. On voit ici que le Fils est supérieur aux anges, les serviteurs pourtant puissants de Dieu. Dans le psaume 103, on lit « Bénissez l'Éternel, vous tous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez la volonté, en obéissant à la parole de sa voix. » Des serviteurs puissants. Et pourtant, Dieu dit ici que les anges de Dieu l'adorent. C'est une autre citation de l'Ancien Testament. Mais il dit aux anges, il est dit des anges qui sont des serviteurs, des ministres. C'est un point important encore là, parce que dans les dernières années, on a vu apparaître le culte des anges. Hein? On a vu ça, des gens qui s'attachent à des anges. Puis, on a le cas extrême, c'est vraiment Moroni. Mais on voit que Jésus, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un être créé, c'est Dieu lui-même. Verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alors, le Fils est l'héritier, supérieur aux anges. Il est digne de toute l'adoration des anges et des hommes. Son règne est éternel. Il n'y aura pas d'autre. Il n'y aura pas d'autre règne que celui de Jésus-Christ. Amen. Jésus accomplit la promesse de Dieu à David que son règne serait éternel. Pourtant, les successeurs de David, ça a été perdu avec le temps. Il n'y a plus de trône là, en Israël pour un successeur de David. C'est Jésus. Depuis Jésus, c'est lui, le fils de David. Hein? Il est appelé aussi le fils de David. Dans le sens, encore là, qu'il est le successeur de David le roi. Il n'est pas directement le fils, mais il est le successeur sur le trône, le fils qui succède. Donc, il accomplit la promesse, Jésus, que Dieu a faite à David, que son règne sera éternel à travers Jésus. Son règne est un règne d'équité et de justice qu'on voit ici. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, Jésus, ton Dieu, le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. C'est que, ici, on parle des hommes, parce que Jésus, en tant que fils de Dieu, il n'y a pas de semblable. C'est les hommes. Hein? Il n'y a aucun homme que Dieu a choisi pour régner éternellement à part Jésus. Et c'est une huile d'allégresse. Dieu est rempli de joie en faisant ça. Ça fait référence à la pratique d'oindre les rois dans l'Ancien Testament avec l'huile pour désigner, OK, c'est lui que Dieu a choisi. Dieu l'a oint d'une huile d'allégresse. Et c'était quoi cette huile-là, en l'instance? Est-ce quelqu'un qui peut nous dire? Le Saint-Esprit. C'est Jésus a été oint du Saint-Esprit. C'est là, à son baptême, que Dieu a dit, c'est lui. C'est lui l'oint. Il n'y avait pas d'huile. L'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit. Amen. Et c'est une huile d'allégresse. Troisièmement, la parole du Fils. Étant donné qu'il est Dieu de toute éternité, qu'il a tout créé, qu'il soutient toutes choses par sa parole, comme on vient de dire, comme on vient de lire, et qu'il a été nommé successeur sur le trône de Dieu, le point que l'auteur veut faire ici, c'est que c'est lui qui a l'autorité totale et absolue pour nous. Donc, là, on arrive là, au chapitre 2, c'est pourquoi. Là, j'ai sauté plusieurs versets qu'on a lus tantôt, là. OK? Peut-être je vais juste vérifier si j'ai oublié des choses, là. Bien, au verset 14, chapitre 1, le dernier verset, c'est pas vraiment le sujet, mais c'est rassurant de voir que Dieu met des esprits au service des saints au service de nous, ses enfants, et ses anges. Les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur. Dans la version sommaire, c'est employés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. C'est rassurant de voir que les anges sont là pour nous aider, mais ils ne sont pas les objets de notre culte, ils ne sont pas les objets de notre adoration. C'est clair. Donc là, le point, chapitre 2, on sait que les chapitres, c'est pas inspiré. Hein? Les chapitres, c'est des hommes qui ont mis ça selon ce qu'ils pensaient pour nous aider à comme définir les paragraphes et tout ça. Mais le chapitre 2, c'est souvent on coupe trop là. En fait, le chapitre 2, verset 1, c'est le point de ce qu'il veut faire de tout ça, de ce qu'il vient dire ici, là. C'est pourquoi. C'est pourquoi, ça veut dire que je viens de vous expliquer quelque chose et maintenant je vous donne la raison pourquoi c'est important. Bien, on a vu plein de choses qui étaient importantes, mais il dit ici, c'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Quelle chose? De quoi il parle? Bien, on va le voir, à mesure qu'on avance, il parle du message du salut, de l'Évangile. Il dit, nous avons entendu afin que nous ne soyons pas emportés loin d'elle, car si la parole annoncée par les anges, là, il parle des choses de l'Ancien Testament, la loi, etc., a eu son effet, et si les gens qui ont désobéi ont été punis, comment échapperons-nous si on néglige un si grand salut? Le salut qui a été annoncé d'abord par le Seigneur. C'est qui le Seigneur? Le Fils héritier. C'est lui. C'est lui le roi. Donc, si lui dit quelque chose, c'est important. Ça a une portée absolue. C'est de lui qu'on parle. C'est pourquoi restons attachés aux choses qu'on a entendues. Quelles choses? L'Évangile qui a été annoncé par ce Fils-là et par ses apôtres. La version sommaire est dit qu'on ne soit pas entraîné à la dérive. À la dérive, attachons-nous. Prenons au sérieux les enseignements que nous avons reçus, les choses qu'on a entendues. Quelles choses? L'Évangile. De qui? De Jésus, le roi, le Fils héritier. Comment échapperons-nous au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu ont ensuite confirmé la validité pour nous et Dieu a authentifié leur témoignage en ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires. Tantôt, j'ai dit, c'est Jésus a exercé l'autorité sur la nature, sur le monde spirituel, sur la mort. C'est clair que c'est lui le Fils. C'est clair que ce n'est pas juste un prophète. C'est clair que ce n'est pas un ange. C'est le Fils. Donc, ce qu'il dit, ça a une portée absolue. Ça a une autorité, ça fait autorité dans nos vies. Et c'est en effet pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Donc, on parle ici d'une soumission totale. On lui doit adoration et obéissance totale à ce Fils-là. Et donc, je reviens avec ça encore. On vient d'avoir une révélation de qui est Jésus, le Fils éternel, le Fils parce qu'il est déclaré l'héritier de son Père sur le trône. C'est lui. Ça devrait nous pousser à quoi? À l'adorer. À l'adorer. Et quand vous entendez Jésus, Fils de Dieu, arrêtez-vous et pensez à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Fils? Ça veut dire qu'il a été déclaré le successeur, l'héritier de toutes choses, le roi des rois. C'est ça, le Fils. C'est inimaginable, ça nous dépasse, c'est merveilleux et ça éclipse toute autre supposée révélation de Dieu. Et ça devrait nous amener aussi à nous examiner pour dire, est-ce que j'adore celui que les anges adorent? Les anges, on l'a lu tantôt, à plus qu'une reprise, les anges, pourtant beaucoup plus puissants, beaucoup plus glorieux que l'être humain, sont d'un ordre supérieur à nous, en tout égard, et adorent le Fils. Est-ce que j'adore dans ma vie et tous les jours? Suis-je un adorateur? C'est ça là, on est en train d'examiner qui est Jésus parce que on sait que qui est Jésus détermine qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il fait détermine qui nous sommes. Donc, si Jésus, c'est le Fils, l'héritier, le roi des rois, le roi suprême, la révélation parfaite de Dieu, ça fait qui de moi? Ça devrait faire de moi un adorateur. Dernièrement, je me dis le matin en me réveillant, je suis un adorateur de Jésus-Christ. Je suis un adorateur de Jésus, le Christ, loin de Dieu. Le Fils, c'est ce que nous sommes. Et c'est important de saisir cette identité-là, frères et sœurs, parce que le diable et le monde et votre chair veulent enlever ça, veulent camoufler ça, veulent faire oublier ça, veulent te faire partir à la dérive qu'on lit ça, comme on lit ici, là, dans le verset 1 du chapitre 2. Qu'on ne parte pas à la dérive, c'est lui, notre identité est ancrée en lui. Donc, est-ce que j'adore celui que les anges adorent? Un petit peu, de temps en temps? Est-ce qu'au courant de la journée, là, je commence à adorer le Seigneur le matin, mais rendu à midi, c'est oublié, j'ai complètement oublié qui est Jésus, qui est Dieu pour moi, et j'ai arrêté de l'adorer? Nous sommes des adorateurs. C'est ce que nous sommes. Et nous sommes les sujets bénis du roi des rois. Nous faisons partie de son royaume. Nous sommes les sujets du roi éternel, le roi dont le trône est juste, équitable et bienveillant. Nous sommes ses sujets. Est-ce que je suis soumis à ce roi-là? Est-ce que je suis vraiment attaché à ses paroles, comme on a lu ici, là? Attachons-nous aux choses qu'on a entendu. Est-ce que je suis attaché à ces paroles ou je laisse d'autres choses pénétrer ma vie qui viennent me distraire, qui viennent me faire partir à la dérive? Hein, c'est vraiment une belle expression dans le Semeur, partir à la dérive. Hein? C'est quoi l'expression? C'est une expression nautique. Ça veut dire que tu pars en bateau, puis à un moment donné, ça dérive. Là. Tu perds le cap. On est comme ça, frères et sœurs. On est des bateaux à voile qui partent facilement à la dérive. Facilement. On a besoin de s'attacher aux paroles de Jésus, le Fils de Dieu, pour ne pas partir à la dérive. Paul dit de certaines personnes dans son entourage, il a fait naufrage concernant la foi. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est parti à la dérive, tellement là qu'il a fait naufrage. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il a perdu salut, mais il a fait naufrage dans sa vie. C'est que sa vie a compté pour Jésus-Christ. Il est échoué sur une plage quelque part, puis sa vie s'est en ruine, puis ça ne compte plus pour Jésus-Christ. Tu veux-tu vivre ça? Si tu ne veux pas vivre ça, il faut que tu t'attaches aux choses que tu as entendues du Fils de Dieu, de sa bouche, de sa parole qui est là. Il faut qu'on se nourrisse de cette parole-là tous les jours, plusieurs fois par jour même, qu'on la médite. Heureux l'homme, hein? Psaume 1. Heureux l'homme qui médite, qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Tu ne dors pas la nuit, médite la parole de Dieu. Sors un psaume, mémorise le psaume, médite là-dessus. Ça va t'aider à garder le cap. Tu ne partiras pas à la dérive. Comment le fait que Jésus soit le Fils de Dieu m'impacte dans ma vie? Quel engagement le Saint-Esprit te dit ce matin de prendre? C'est un engagement à prendre. Il y a toujours un engagement lorsqu'on a une révélation de la personne de Dieu. Ça nous pousse à l'adorer, ça nous pousse à confesser, à s'examiner, puis ça pousse à l'engagement. Sinon, c'est stérile. La parole de Dieu produit quelque chose. Elle produit un changement. Elle devrait produire un changement. Mais Dieu ne forcera pas personne. Il veut que tu t'engages. À quoi, ce matin, le Seigneur t'engage à faire suite à cette révélation-là? Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, qui nous amène de plus en plus dans la lumière de sa présence glorieuse, de qui il est dans toutes ses dimensions, qu'on puisse l'adorer et vivre soumis à lui dans la joie dans son royaume. Amen. Fait que je vais te laisser la parole, William, pour la suite.